Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. Vous en avez maintenant l'habitude, nous débutons toujours notre chronique par la citation d'un auteur célèbre qui aimait la marche et qui en louait ses qualités. Aujourd'hui, je reprendrai les propos d'un écrivain du siècle dernier, décédé en 1914, John Muir, qui a fait l'apologie de la marche en montagne pour l'esprit et le corps. Cet Américain d'origine écossaise fut l'un des premiers naturalistes modernes, pionnier de l'écologie et militant de la protection de la nature. À noter qu'outre les nombreux essais et livres racontant ses aventures dans la nature et la vie sauvage, il a aussi contribué à sauver la vallée de Yosemite et d'autres espèces sauvages. Donc, John Muir, c'est lui dont il s'agit, disait « Dans chaque promenade avec la nature, on reçoit bien plus que l'on ne cherche. » Parole d'un passionné qu'il a testé toute sa vie.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almaric.
Voilà une belle entame littéraire pour lancer pleinement notre chronique. Je marche donc, je suis ambulo ergo sum, déviant du cogito ergo sum de Descartes pour nous entraîner dans un autre discours de la méthode, focaliser celui-là sur la marche et la randonnée. De suite, le petit conseil de la semaine. Restez à l'écoute lors de vos marches et de vos randonnées. Donc, appréciez la nature, respirez et relaxez-vous durant les pauses. Saisissez l'occasion unique de méditer et de vous recentrer. Mais n'en oubliez pas pour autant l'environnement que vous préserverez en laissant la nature telle que vous l'avez trouvée. Je pense bien sûr aux déchets que vous emporterez et au respect que vous aurez des lieux que vous allez fouler, en prenant garde de bien respecter les sentiers, les lieux de pacage et les clôtures, afin de préserver les activités rurales et l'écosystème. Ces propos paraîtront superflus à certains, mais la chronique, la pratique, démontre qu'il y a encore beaucoup trop de récalcitrants.
Vous êtes bien sur Radio FM Plus et vous écoutez « Je marche, donc je suis ». I'm not trying to have another conversation. Probably
not gonna wanna play me on your station. Après les conseils, des infos pratiques sur l'état des parcours. Pour éviter les désagréments d'une rando écourtée par des éboulements ou tout autre cas de force majeure, faisons circuler l'information. Donc, vous, usagers des sentiers et des milieux naturels, devenez acteurs en signalant toutes les anomalies rencontrées lors de vos randonnées. De nombreux services de ce type existent déjà, mais nous ajoutons notre participation à ceci pour une meilleure qualité de préservation des milieux de randonnée en décloisonnant l'information pour qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre. Aujourd'hui, je n'ai pas de situation particulière à vous communiquer, donc envoyez-moi vos infos. Merci.
Je marche, donc je suis, sur Radio FM+.
La semaine dernière, j'avais réalisé un focus sur le GPS, dont l'anagramme signifie Global Positioning System. Aujourd'hui, nous allons aborder les outils disponibles pour bénéficier de tous les avantages de cette géolocalisation qui nous vient de l'espace. Avant de présenter les différentes options qui s'offrent à vous, il faut avant tout évaluer l'usage que vous allez en faire. Il est évident que le matériel utile pour réaliser de simples marches ou de petites randonnées ne sera pas le même que celui nécessaire pour affronter des randonnées longues ou des terrains techniques, voire des randonnées en montagne, et notamment en hiver. Il vous faut évidemment rechercher des outils qui soient conformes aux caractéristiques de vos pérégrinations et des milieux où vous allez évoluer. Donc depuis 2007, date de l'apparition du smartphone, son utilisation semble être devenue incontournable dans la vie de milliards d'individus. Il est évident que la palette des possibles offerts par ce petit support, véritable ordinateur de poche, est considérable. Il ne fait pas tout, mais de la photo à nombre de tâches de bureau, de la navigation sur le web au courrier électronique et donc jusqu'à la géolocalisation, il couvre une palette de services qui ne cesse de s'étoffer. Et la géolocalisation n'est pas, et de loin, la plus mal servie. De Google Earth à Google Maps, le quadrillage du monde est efficient. Et pour la randonnée, le nombre de plateformes efficaces est éloquent. Donc, votre smartphone doté d'une application spécifique est maintenant devenu un des incontournables dans les marches et les randonnées. Il faut dire qu'il coche de nombreuses cases qui viennent avec efficacité et simplicité apporter la majeure partie des éléments indispensables pour choisir un terrain de randonnée, créer un parcours, diffuser sa trace ou en suivre ses méandres. Bien sûr, pour disposer de toutes ces facultés, il est nécessaire de télécharger sur votre appareil préféré là où les applications idoines. Elles sont légion et aussi performantes les unes que les autres. Même si l'approche de chacune est légèrement différente, leur ergonomie et leur prise en main restent tout de même d'une grande facilité. Si à ce jour, vous n'avez pas fait votre choix, sachez qu'il y a des explications et des applications pour les services cartographiques, avec notamment pour la France IGN Géoportail, qui vous propose dans IGN Rando, donc à télécharger, tous les fonds topographiques avec les cartes adaptées pour la randonnée, bien sûr au 1/25 millième. Certaines de ces cartes peuvent être payantes. Il y a aussi les cartes proposées par OSM, OpenStreetMap, qui sont généralement reprises dans la plupart des applications qui vous fournissent des kits clés en main pour répondre à toutes vos demandes de parcours, de la création à la diffusion et à leur utilisation. Parmi les plus téléchargés et les plus utilisés, notez Komoot pour des itinéraires très conviviaux et pour planifier et naviguer. Il y a ensuite Maps.me qui offre des cartes hors ligne gratuites pour le monde entier, parfaites pour naviguer sans Internet. Et les chouchous de chez nous, on peut les présenter comme ça. Il y a bien sûr OpenRunner et Visorando qui vous proposent des itinéraires partagés et bien d'autres facilités. Ces plateformes jouent la carte de l'associatif pour ameuter sur leur application qui se décline avec quelques utilisations gratuites mais limitées. Ensuite, il y a de nombreuses facilités et des développements avec des prolongements qui nécessitent, bien sûr, de passer par un contrat pro qui, bien sûr, lui, est payant. Donc, à vous de faire vos choix. Et pour cela, vous utilisez l'offre limitée et gratuite pour voir ce qui vous convient le mieux. Alors, pour en finir avec le smartphone, on peut peut-être évoquer aussi ses lacunes et ses limites. Au premier rang de celles-ci, peut-être le niveau limité dans la qualité des signaux GPS reçus. Dans l'ensemble, la majorité des applications ne sont pas en double réseau, ce qui limite le nombre de signaux pris en charge et donc la précision de la géolocalisation, notamment en situation difficile. Le smartphone, qui offre une bonne visualisation des cartes, reste cependant un outil fragile. Ils craignent les chutes, bien sûr. Ils craignent aussi l'eau. Et ils consomment beaucoup d'énergie. C'est une des raisons qui impose de toujours télécharger les cartes en ligne. Il est également conseillé d'activer le mode avion pour économiser votre batterie. Et bien sûr, il est conseillé aussi d'utiliser une pochette étanche et anti-choc. Enfin, il est indispensable de disposer d'un power bank, à savoir une batterie de recharge. Voilà pour le smartphone. Ensuite, pour une utilisation plus professionnelle, vous avez le GPS dédié qui est plus performant, mais qui malheureusement est essentiellement utilisable pour la géolocalisation. Il offre, lui, une bien meilleure localisation, car il est souvent doté d'une double fréquence, ce qui lui permet de doubler le nombre de signaux satellites qu'il capte, ce qui favorise une bien meilleure géolocalisation. Ces GPS dédiés, qu'on appelle aussi handhelds, sont donc des appareils plus performants. Ils sont d'une dimension bien souvent plus réduite que les smartphones, avec un écran plus petit, mais ce n'est pas forcément très gênant. Par contre, ils sont plus robustes, ils ont une durabilité supérieure et ils sont étanches et avec une autonomie plus longue. En plus, ils disposent de boutons qui sont utilisables avec des gants. Enfin, ils ont des fonctionnalités très pointues comme l'altimètre barométrique, le compas électronique. Et ils permettent donc l'import-export de GPX et des routages topographiques. Leur principal inconvénient, c'est que c'est un outil spécifique qui répond qu'à une seule tâche. Et dans cette catégorie, on retrouve des appareils qui sont parfois assez onéreux. Et pour en terminer de ces fameux outils, après le smartphone, le GPS dédié, le troisième outil est une montre, la montre GPS multisport. Ses avantages, ce sont le côté compact et l'intérêt de l'avoir en permanence, toujours au poignet. En plus, elle offre en instantané toutes les données de l'altitude à la vitesse, l'heure et la durée, la température et les données personnelles. Par contre, elle ne permet que des navigations basiques. Elle ne dispose que d'un petit écran, ce qui est difficile pour une navigation détaillée, mais elle a une autonomie pour des durées parfois très longues.
Vous êtes bien sur Radio FM+, et vous écoutez Je marche, donc je suis. I'm not trying to have another conversation.
Probably not gonna wanna play me on your station. Pour résumer mon propos, je vous propose trois configurations concrètes et adaptées à trois cas de figure particuliers, en prenant en cause l'équipement principal, les conseils d'usage et les avantages et inconvénients. Première configuration à envisager pour une rando à la journée sur des sentiers fréquentés, voire balisés. À ce moment-là, un smartphone récent, type Android ou iOS, est suffisant, avec bien sûr quand même l'application avec carte offline, IGN Rando ou Maps.me. Il vous faut bien sûr prévoir une batterie de recharge d'environ 10 000 mAh, une coque housse étanche et bien sûr après les sangles, etc. Ne pas oublier, c'est toujours conseillé, la carte papier locale et éventuellement une boussole. N'oubliez pas, avant le départ, de sauvegarder le GPX, partager l'itinéraire avec un contact, ça peut toujours être utile. L'avantage de cette formule, c'est qu'elle est économique, confortable pour les randos courtes et d'un partage facile. Ses limites, bien sûr, c'est son autonomie, sa robustesse limitée et moins adaptée aux zones hors réseau. La deuxième configuration s'applique à un niveau supérieur pour des week-ends ou des randonnées techniques. Là, il est conseillé de prendre un GPS portable, pas forcément le top, mais une entrée de gamme ou un intermédiaire. On peut se munir de la montre GPS multisupport, ce n'est pas une obligation, et quand même avoir aussi son smartphone en secours. Le smartphone, bien sûr, avec IGN Rando ou Komoot et les cartes offline. Bien sûr, toujours la carte papier IGN OM 25 millième, la boussole, une ou s'étanche, et toujours, bien sûr, la batterie pour recharger votre smartphone qui peut arriver en bout de course. Les avantages: meilleure fiabilité GPS, autonomie, navigation précise, la limite, un coût supérieur, et évidemment, le doublon des appareils à gérer. Et je finirai avec la dernière configuration qui est réservée au trek isolé, à la haute montagne, voire au multi-séjour. À ce moment-là, il est conseillé de prendre un GPS portable haut de gamme avec cartographie, IGN si possible, une montre GPS robuste en complément, ce n'est pas obligatoire, et puis le fameux messenger satellite bidirectionnel ou le PNLB SOS direct en cas de problème particulier. Bien sûr, comme toujours, la carte IGN, la boussole, l'altimètre barométrique, qui est en général sur l'appareil, et prévoir une recharge pour les batteries plus importantes, ainsi qu'un chargeur 12 volts ou s'étanche, sac anti-choc, support, etc. Voilà, et pour cela, on vous conseille quand même aussi, si vous ne le maîtrisez pas beaucoup, une formation à l'utilisation du PNLB Enrich et une formation à la lecture topographique. La réflexion s'arrête là aujourd'hui. Nous allons donc passer à notre deuxième partie en faisant un pas de côté pour accueillir notre invité qui va vous entretenir de marche, mais de marche nordique. Nous nous écartons légèrement de notre itinéraire pour cette discipline où l'on marche, mais d'une autre façon.
just come out. And I'm going down. Yeah, yeah, yeah. Hey. I said, wow. I said, wow, oh baby, I think I got one more in me. I said, wow, the way you're going down, 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 down the way.
Robert Maldrick, Je marche donc je suis. Nous allons maintenant, après ce déluge de son métallique, retrouver un peu la quiétude de nos sentiers. Après AC/DC, Highway to Hell, nous accueillons notre invité du jour, Philippe Lejean. Philippe Lejean est à la fois administrateur et animateur et responsable de l'activité nordique à la MUX. La MUX, cette association que nous avons déjà reçue, qui vient de fêter ses 40 ans, qui a un certain nombre d'activités culturelles et de loisirs, comme le bridge, le club cinéma, le club lecture, le club de noologie, le club de philo, le Scrabble, également des sorties culturelles et des sorties spectacles. Et bien sûr, à la MUX, il y a aussi du sport, n'est-ce pas Philippe ?
Ah, tout à fait, Philippe. Le sport, trois types de sports pratiqués à la MUX, marche et randonnée, marche nordique et marche aquatique.
Plus, n'oublie pas, le golf, qui est également au programme.
Le golf, oui, tout à fait, que je pratique d'ailleurs en même temps.
Voilà. Donc Philippe, aujourd'hui, tu vas nous parler en long et en large de ce sport que tu pratiques depuis de nombreuses années, qui est un sport complet. La marche nordique.
Eh oui, la marche nordique, c'est un sport complet qui est conseillé par le corps médical, particulièrement pour les seniors. Alors, les origines de ce sport sont dans les pays nordiques, comme son nom l'indique. Il semble que des fondeurs aient mis en place ce sport pour s'entraîner lorsqu'il n'y a pas de neige. C'est arrivé en France dans les années 90, ce sport, la pratique de ce sport. Alors, quel est le principe de la marche nordique ? C'est d'abord une marche rapide, assisté de bâtons spécifiques, les bâtons servant à se propulser.
Voilà. Différence par rapport à la randonnée, où les bâtons servent d'appui pour se récupérer, alors que là, c'est vraiment des outils de propulsion.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on utilise à la marche nordique 90% des muscles du corps, puisqu'on marche et qu'on appuie sur les bâtons et qu'on fait un mouvement de balancier de bras. Donc, ça permet effectivement de se dépenser beaucoup plus qu'à la randonnée.
Oui, on peut signaler que d'ailleurs, la marche nordique dure moins longtemps que la randonnée, mais représente un effort beaucoup plus physique.
Tout à fait. Robert, qui est en face de moi, m'a dit qu'il avait marché 15 km vendredi dernier. Il était beaucoup moins fatigué que les 10 km qu'on a fait en marche nordique. Voilà, on a marché au minimum à 5 km/h de moyenne. Donc, comme on utilise le haut du corps, c'est ce qui crée plus de fatigue. Mais aussi, on dépense plus de calories. Et c'est un sport d'endurance. Comme tous les sports d'endurance, la marche nordique contribue à la lutte contre le cholestérol, contre le mauvais cholestérol, contre la tension, contre le diabète, favorise une bonne santé cardiovasculaire et respiratoire et une bonne santé osseuse. Voilà, c'est pour ça qu'elle est très conseillée aux seniors comme à tous les publics.
C'est un véritable certificat médical, en fait.
Si on veut, oui. Alors, elle contribue. Mais il faut, par ailleurs, avoir une alimentation équilibrée et ainsi de suite, bien sûr.
Bien sûr.
Alors, la technique, ce sont des grands pas, les bras tendus, toujours les bras tendus. On appuie sur les bâtons et on entraîne le bâton loin derrière soi. Alors ça, c'est un geste technique qu'il faut comprendre et mettre en place. Donc les personnes qui arrivent dans notre groupe, on leur apprend sur plusieurs séances comment être efficace sur le planté du bâton. Mais ce n'est pas le planté du bâton de M. Pignon, là c'est le planté du bâton de la marche nordique. Voilà.
Oui, il faut d'ailleurs plusieurs séances. Personnellement, j'ai encore des progrès à faire dans ce domaine-là pour arriver à l'acquérir et à ce qu'il soit vraiment efficace.
Oui, ce n'est pas forcément un geste naturel. Ce qui se rapproche le plus de la marche nordique, une activité qu'on peut faire soi-même, c'est la marche rapide. D'ailleurs, je demande aux personnes qui arrivent sur le club de faire une séance de marche rapide. Et je leur montre en quoi consiste la marche rapide. Et ce qui est important dans cette marche rapide, c'est de se servir du balancier des bras. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est une marche rapide bien exécutée, c'est une bonne préparation à la marche nordique.
Il y a d'ailleurs, ceux qui regardent les Jeux Olympiques, qui voient la marche rapide, on voit la position des bras qui est très particulière, et effectivement, ce sont des gens qui marchent quand même à près de 10 km/h.
Tout à fait, le balancement des bras, quand il est bien exécuté, permet de se propulser également comme les bâtons, donc c'est essentiel.
Alors, à noter que son nom, effectivement, vient du Nord, parce que c'est effectivement ça a servi. Et si vous êtes amateur de ski de fond, forcément, vous avez une habitude déjà de ce mouvement et il peut vous aider à basculer, je dirais, du ski à la marche nordique.
Tout à fait. La marche nordique, on peut la pratiquer dans le sud aussi. Hein. Alors, on a plusieurs parcours à l'association. On a 12 parcours hein, différents. On a des parcours sur la plage qui vont servir aux débutants à comprendre le geste technique. Et ensuite, dans le courant de l'année, on a plusieurs parcours pour un peu égayer les séances, parce que la plage continuellement, ça peut être pénible.
Voilà. Oui. Alors ce que l'on peut dire aussi sur la marche nordique, c'est qu'il n'y a pas trop question de déniveler, on travaille plutôt sur le plat et sur des sentiers pas trop caoutchouc.
Absolument, uniquement du plat. Alors, on doit adapter. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, je m'adresse avec ma conjointe Dominique et Christian à des publics seniors. Donc, voilà. Les méthodes d'apprentissage du senior, elles doivent être adaptées. Pourquoi ? Les seniors, c'est un public particulier. On a effectivement des personnes chez les seniors qui ont du mal à accepter leur déchéance corporelle, ce qu'ils appellent une déchéance corporelle. On a aussi des seniors qui ont une expérience de riche en responsabilité sociale, en familiale, et qui ne vont pas forcément être d'accord avec ce qu'on dit. Hein. Et puis, on a également des problèmes d'isolement social chez les seniors. On s'isole, on ne voit plus grand monde. Donc, la marche nordique va permettre pour ces gens-là de rencontrer de nouvelles personnes et surtout se renouer confiance. Donc, quand on apprend la marche nordique aux seniors, on doit écouter ce qu'ils disent, on doit être patient, mais rester ferme. Sinon, les contestations peuvent arriver. bien évidemment. Alors, ensuite, il faut également penser à féliciter le senior quand il a accompli sa séance, l'encourager et valoriser l'effort. Et puis également, lui donner des responsabilités. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour éviter des soucis de compréhension avec le public senior.
Voilà, donc il y a un côté insertion, maintien dans une sociabilité bienvenue.
Tout à fait, tout à fait. D'autant plus que le geste technique n'est pas simple à apprendre. Hein. Donc il faut expliquer aux marcheurs et aux marcheuses qu'il faudra du temps pour l'apprendre.
Hein. J'en sais quelque chose, j'en sais quelque chose, effectivement.
Alors, les séances, elles sont d'environ 1h30 à 2h. Hein, ils sont de 1h30 à 2h sur des distances qui vont de 7 à 12 km. 12 km, c'est en fin de saison, bien sûr. Hein. Elles sont précédées d'une séance d'échauffement de 10 minutes, très important.
Ce qui est très bien, qu'on ne pratique pas toujours dans d'autres disciplines, mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait cette période d'échauffement pour préparer la musculature.
Il y a la séance de marche proprement dite, et ensuite, très important aussi, et qu'on peut faire dans beaucoup de sports, y compris la randonnée, la séance d'étirement.
C'est pour conclure. Et là, c'est très important parce que ça vous permet de partir avec et de garder de bonnes sensations positives et d'oublier, ou malheureusement, de subir des douleurs qui sont toujours, a priori, un peu énervantes, dirons-nous.
Bien sûr, bien sûr. Alors, marche nordique, on a un groupe de marcheurs qui ont environ 20 personnes qui marchent assez régulièrement. C'est le maximum qu'on puisse accueillir puisqu'on n'a que deux animateurs et un en formation. Mais effectivement, le niveau, on demande que les personnes marchent au moins à 5 km/h. Voilà. Et ça se passe bien en général, sauf gros soucis de santé.
Oui, car comme pour les randonnées, il faut quand même une bonne condition physique. La marche permet de l'entretenir, mais au départ, il faut quand même avoir un certain niveau avant de commencer à venir dans un groupe qui pratique déjà le sport.
Alors, les animateurs surveillent, s'inquiètent effectivement des personnes qui pratiquent. Hein. Nous allons les voir régulièrement, voir si elles peuvent encore parler, si elles ont des problèmes musculaires. On est en surveillance quand même pour voir si effectivement il y a des difficultés. Mais en général, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et comme ce sont des seniors, il appartient aux animateurs d'adapter la séance. Alors, fort physique, hein. Évidemment, un senior, également les seniors, malheureusement, ils perdent un peu de motricité, ils perdent d'élasticité, ils perdent beaucoup de choses. Donc, il n'est pas question pour les seniors de demander une vitesse importante sur des distances énormes. Hein. Oui. Donc, on adapte toujours les séances aux seniors. On peut, sur la plage, avoir plusieurs types de marcheurs, des marcheurs rapides et des marcheurs lents. On peut, sur la plage, on peut les surveiller. Quoi.
Oui.
Donc, on se répartit les groupes.
De toute façon, comme dans les randonnées, il y a un chef de file, en quelque sorte, qui tire devant. Il y a une personne intermédiaire pour le groupe intermédiaire. Et il y a bien sûr un serre-file pour vérifier que tout le groupe reste uni, même s'il s'étire un petit peu sur la distance.
Ah oui, tout à fait. Il n'est pas question d'abandonner une personne, enfin à notre insu, qui s'est arrêtée pour quelques raisons. Hein, les animateurs sont responsables de la sécurité du groupe. Hein. Ils doivent choisir des parcours qui sont praticables pour les seniors et ils doivent rappeler les consignes de sécurité applicables. Ensuite, le senior, le comportement est ce qu'il est, mais en tous les cas, l'animateur, il doit répéter aux pratiquants quelles sont les consignes de sécurité. Voilà. Et puis l'animateur, il doit aussi savoir agir en cas d'accident. Ça peut arriver. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place en cas d'accident. C'est rare en marche nordique. Mais ça peut arriver. Les accidents les plus fréquents en marche nordique, c'est les bâtons qui s'entremêlent. On marche de front, on discute, on est bien, et les bâtons s'entremêlent et on tombe. Voilà. Donc on peut se faire du mal sur des parcours caillouteux. Voilà.
Mais je crois que nous avons fait le tour de cette discipline que nous vous engageons à pratiquer. Et donc notre chronique hebdomadaire, je marche, donc je suis, se termine. Vous avez le podcast à disposition sur le site de la radio par l'adresse radio-fm+, tout en minuscule attaché.org. Vous pouvez, à partir du podcast, laisser vos commentaires, conseils ou propositions pour améliorer cette chronique qui se structure. Vous pouvez également envoyer directement un mail à contact@radio-fm+.com. On se quitte maintenant sur une chanson proposée par notre ami Philippe Lejean, grand spécialiste de la marche nordique, qui a choisi. Il n'y a pas de rapport avec avec notre interview, mais elle est très belle, cette chanson d'Yves Montand, Casse-tête. Bye bye, et à la semaine prochaine, 10h.
Au revoir.
Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi. Ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica, Yann Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné Étais-je allongé dans des draps ou bien couché sur la banquise? Ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, boucher les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes à coups de trique noir. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête de raciste empuréeux? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dedans et se découvrent en nouveau monde? Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Ian Patochka argentin et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient.